C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Alors, notre journaliste Karl Marchand vient d'en parler. Ce qui retient l'attention dans l'actualité aujourd'hui, ce sont les feux de forêt qui virent à la catastrophe en Nouvelle-Écosse et au Québec. Des milliers de personnes qui sont évacuées, des gens qui ont déjà tout perdu. En Nouvelle-Écosse, il y a plusieurs feux qui sont hors de contrôle. Même chose au Québec. L'état d'urgence a été déclaré à Sept-Îles. Là aussi, des quartiers qui sont évacués. État d'urgence dans la communauté Innue de Manihuétenam. Le feu se propage à une vitesse inouïe là, en quelques jours après. Dans un coin de la région de Sept-Îles, on est passé d'un feu qui s'étendait sur 6 km carrés. Eh bien, c'est devenu 380 km carrés. Donc, c'est très, très difficile de contrôler la situation. Situation, d'ailleurs, qui résonne aux quatre coins du monde. Hein. À peu près, les journaux en Europe en parlent. C'était la manchette du quotidien Le Monde un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, on va faire le point sur la situation. Et d'abord, on va aller dans le coin de Chappais, parce que Chappais, au nord de Chibougamau, là aussi, il y a une situation qui est assez dramatique. Notre journaliste Philippe Rodrigue Comeau était à Chappais depuis hier. Et Philippe Rodrigue, tu es maintenant de retour vers Québec.
Sur le chemin du retour, ouais, Philippe, bon. J'approche bientôt Saint-Félicien. Là.
Bon, alors raconte-nous ce que tu as vu sur place.
Ben, à Chappais, la première chose qui frappe d'entrée de jeu, c'est que le ciel est bleu, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur de feu de camp ou de bois brûlé, alors que pourtant, il y a un feu de 14 km carrés qui brûle depuis mercredi à 5 km du village. Là. C'est ce qui est vraiment étonnant. Les images que vous avez peut-être vues de Chappais où là, c'était plus noirci comme ciel, c'était mercredi lorsqu'il y a eu les premières évacuations. À peu près la moitié du village, c'est-à-dire 500 adresses, 800 personnes, là, c'est approximatif, mais on dit la moitié du village. Et depuis ce temps-là, on se croise les doigts, mais le vent, c'est essentiellement la seule bonne nouvelle qu'on a pour les gens de Chappais, c'est que le vent va dans le sens inverse du village, de sorte que les pompiers, même s'ils sont en nombre insuffisant, n'ont pas la capacité là, de mener des charges offensives, pas du tout, ben, ils peuvent travailler ils font un peu comme le Canadien l'a fait longtemps, là, ils jouent la trappe, c'est-à-dire ils vont défensifs parce qu'ils n'ont pas de premier trio, ils creusent un 4 à 5 kilomètres de tranchées entre le feu et le village de Chappais, dans l'espoir que si le vent tourne puis que le feu revient vers le village, ben qu'il n'y ait plus rien à brûler et que comme ça, ben on pourra protéger les résidents. C'est là où on en était aujourd'hui. 70% de ce coupe-feu-là qui a été sur un axe presque complet, là, complété à matin. On attend les nouvelles en fin de journée là, pour voir si ça sera réussi là, d'ici les prochaines heures.
Bon, t'as parlé à des gens là-bas. Comment est le moral de la population?
Quand même très 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 bon, je dirais que c'est pas des gens qui m'apparaissent être nerveux. D'abord, un des éléments à retenir, il y en a beaucoup là-dedans qui ont des terrains de camping saisonniers, je parle des gens de Chappais là, aux alentours, dans des campings qui sont hors de portée des flammes, qui sont tout à fait sécuritaires, des chalets aussi, c'est un coin très 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 populaire, le paradis de la pêche là pour plusieurs. Alors les gens sont bien installés avec des résidences secondaires. Donc pour la plupart à qui j'ai parlé, on me disait ben c'est sûr que c'est plate, mais là il y a pas d'école pour les enfants. Le travail, on continue. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent à la maison. Il n'y a pas de menace imminente là, au niveau du feu. Passe à la maison, prendre une douche, prendre des bagages, puis on va dormir au camping ou au chalet. C'est ça pour l'essentiel des gens qui sont évacués, sauf une petite portion qui se retrouve réfugiée en quelque sorte à l'aréna de Chibougamau qui a été transformée justement en site d'accueil. On parle d'une trentaine de personnes qui, eux, étaient dans le coin de la zone villégiature près des lacs où l'incendie est assez fort. Et eux, ben, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils habitaient là, contrairement à d'autres pour qui c'était des résidences secondaires. C'était leur résidence principale. Il y en a même qui étaient assez game de rester à coucher, même s'ils étaient dans la zone visée par les recommandations d'évacuation. On parle ici du côté nord, parce que le village de Chappais est séparé en deux par un boulevard, quelques rues de chaque côté. Il y a un côté qui est visé par les évacuations. Ça n'a pas empêché des gens de passer les deux nuits-là. C'est sûr que le ciel bleu peut aussi être trompeur, parce que ça paraît pas. Là. À part les avions citernes jaunes et rouges là, qui passent une fois de temps en temps, les hélicoptères, les gens de la SOPFEU, on ne croirait pas qu'il y a un incendie, l'un des plus gros au Québec, qui fait rage.
Alors, souhaitons, Philippe Rodrigue, que toutes les mesures mises en place là, réussissent à faire en sorte qu'on évite le pire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
OK, bonne journée. Je me tourne maintenant vers le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Monsieur Bonnardel, on apprend que le Québec demande l'aide de l'armée canadienne.
Oui, dans les dernières secondes, j'étais en communication avec le ministre fédéral Bill Blair pour leur demander de l'aide du côté des forces armées. Je le disais depuis ce matin que les forces armées étaient présentes en termes de support du côté de la sécurité civile pour la logistique comme telle. Mais là, il y a deux soucis majeurs pour nous présentement. Il y a la Côte-Nord avec les feux qui sont hors de contrôle pour certains, d'autres que nous essayons de contrôler. Il y a 114 feux présentement qui sont dans la zone intensive. Il y en a 21 de ces feux que nous combattons fortement du côté de cette île. Malgré, puis ça, c'est pour protéger nécessairement les populations, les maisons le plus possible et les infrastructures névralgiques d'Hydro-Québec. Quand je vous disais qu'on a deux soucis, ben oui, il y a cette île, mais il y a aussi le pont Touzel qui est fermé depuis près de 3 jours déjà, qui coupe en deux la 138, donc près de 6500 personnes du côté de la base Côte-Nord. Alors là, on a des ponts aériens pour alimenter ces gens, essence et tout, malgré le fait que le pont sera ouvert dans une semaine aux véhicules légers. Les forces armées vont nous donner un coup de main pour être capables de transporter ces denrées, sûrement avec un Hercule ou autre. Et de l'autre côté, d'aider les gens de la SOPFEU. Ma collègue Maïté a demandé toute l'aide possible et rapatrier des gens de la SOPFEU qui étaient ailleurs dans l'Ouest. Donc, c'est près de 400 de ces personnes qui sont sur le terrain. Des supports additionnels du côté d'autres pays, mais cela pourrait prendre peut-être 5 à 7 jours. Donc, les forces armées seront les bienvenues le plus rapidement possible pour être capables de combattre tout ça.
Monsieur Bodardel, sur le plan des évacuations, là, on en est où? Il y a combien de gens qui ont été évacués dans les dernières heures?
Présentement, si on parle de Chappé, vous aviez votre journaliste qui était là-bas, c'est plus ou moins 1000 personnes là, qui sont évacuées. La situation quand même semble sous contrôle à cause des vents, grâce aux vents dans ce secteur. De l'autre côté, cette île, c'est un peu plus problématique avec la périphérie. On parle de plus ou moins 10 000 personnes, le tiers de la population qui est déjà évacuée ou pourrait être évacuée dans les prochaines heures. On parle des secteurs du lac d'Aigle, de Moisy, des plages, de Maliotenan, la communauté autochtone. Alors, on n'aura pas le choix, il faut prévenir. Il faut s'assurer, malgré que le feu soit encore à plusieurs kilomètres de cette île, de prévenir et de s'assurer que tout le monde va être en sécurité. Alors, autant du côté de l'Aquarouge, à qui on a fait appel pour les centres d'hébergement qui sont à cette île, qui sont à Baie-Comeau. Alors là-dessus, c'est tous les effectifs possibles là, qui sont sur le terrain vont nous permettre de combattre tout ça.
Bon, vous le dites, à cette île, le feu est quand même encore éloigné là, de la ville, mais comment faire en sorte qu'il ne se rapproche pas? Parce qu'on l'a vu en Nouvelle-Écosse, ça a été terrible. Il y a des quartiers en banlieue d'Halifax qui ont été touchés, des maisons qui ont été ravagées par les flammes. Alors, quelles mesures on met en place pour éviter le pire à cette île?
Bien, on a nos avions, comme vous le savez, nos fameux CL. Maintenant, les pompiers qui sont formés pour les feux de forêt ont des techniques assez spécifiques de creuser des tranchées, si je peux le dire ainsi, là, pour s'assurer que, grâce à la largeur de ces tranchées, les vents et tout, là, que le feu ne puisse pas prendre plus de superficie, si je peux le dire ainsi. Donc, et du côté de cette île, le problème, c'est que c'est des vents du nord-est. Donc, les vents qui amènent les feux plus vers cette île. Donc, ça aide pas. La température a baissé quand même depuis quelques heures, se situe en bas de 20 degrés. Il n'y a pas de pluie d'annoncer pour les 3 prochaines journées, pas de pluie avant mardi prochain du côté de cette île. Donc, c'est pas évident quand même, là.
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le mieux?
Bien, c'est toutes les ressources disponibles, M. Quentin. On va tout faire. Puis là, je le dis, là, il y a deux choses pour nous immensément importantes. La sécurité des gens. Essayer le plus possible de sauver les biens de ces personnes qui ont été évacuées déjà. Puis de l'autre côté, sur nos infrastructures névralgiques. Là. Quand je disais tantôt là, qu'il y avait 21 feux sur 114 que nous combattons, bien, c'est de s'assurer que les infrastructures style Hydro-Québec ne soit pas affecté ou affecté le moins possible pour qu'il n'y ait pas de panne de courant majeure. Vous l'avez vu hier, c'est près de 250 000 personnes qui ont été affectées. Là.
Ouais.
Donc, toutes les ressources disponibles, autant du côté des ressources terrain, à partir de maintenant, les forces armées seront appelées et nos avions. Et l'aide extérieure de d'autres pays d'ici quelques jours, on va tout faire pour combattre ça.
Donc, le danger est réel pour les installations d'Hydro-Québec.
Ben, le danger est réel. Il y a des niveaux d'alerte, c'est certain, là, qui sont problématiques. Mais là-dessus, comme je vous l'ai dit, là, on concentre nos efforts sur 21 de ces feux. On met tous les effectifs possibles sur le terrain pour s'assurer que nos infrastructures soient bien protégées et que la population l'ait aussi en premier lieu et nécessairement leurs biens. Donc, on va tout faire là, pour être capable de s'assurer de sauver toutes les maisons possibles si le feu se rendait à cette île comme telle. Alors là, présentement, on a des nuages de fumée assez importants. Faut pas oublier qu'on a besoin aussi là, de transport, de marchandises, de denrées pour alimenter la base Côte-Nord, comme je vous le disais déjà, à cause du pont Touzel qui est fermé, qui sera fermé encore pour 7 jours. Mine de rien, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et de transporter des gens, exemple, de Natashquan, Havre-Saint-Pierre, qui ont des besoins médicaux du côté de cette île ou du côté de Baie-Comeau. Alors, la Côte-Nord est affectée, mais on va être là.
Monsieur Bonnardel, vous parlez de 114 feux. Il y en a 21 que vous combattez activement à l'heure actuelle. Il en reste 93. Donc, on fait quoi avec ces 93 autres feux?
Mais Monsieur Quentin, c'est ça. Présentement, ils sont dans des secteurs intensifs où la population n'est pas en jeu, où il n'y a pas de maison ou de communauté comme telle. Donc, ces feux, présentement, sont pas hors de contrôle. On ne peut pas les contrôler parce qu'il faut combattre. Il faut combattre ce qui pourrait être problématique. C'est pour ça, comme je vous le disais tantôt, là, que dans notre cellule de crise, on a défini 21 feux qui sont plus problématiques, qui pourraient être problématiques et qui pourraient affecter nos populations.
Est-ce que vous êtes sur place?
Non, je suis dans mon auto, là.
OK. Est-ce que vous pensez y aller?
Bien, présentement, vous savez, on est capable de gérer autant ma collègue Kateri, qui est présentement sur la Côte-Nord à cette île, que ma collègue Maïté aussi, moi qui m'assure de tous les renseignements qui entrent à chaque minute ou à peu près avec nos équipes de sécurité. Donc, on est en constante communication là, présentement, même si on n'est pas sur le terrain présentement. Là, parce que, de toute façon, vous comprendrez très bien, là, je ne peux pas être dans les feux, on ne peut pas être là. Je pense que les équipes font leur travail. Ce qui m'importe pour moi, là, c'est de s'assurer que tout le monde ce soir ait un dodo si besoin est. La majorité de ces gens ont des familles ou des amis mais on a quand même des centres d'hébergement qui seront ouverts. Et si la population a besoin de quoi que ce soit, je donne un numéro à ceux qui nous écoutent, 1-877-644-4545. 1-877-644-4545. Sinon, suivez les sites de la Sécurité publique, d'Urgence Québec, de la ville de cette ville où il y a beaucoup d'informations pour s'assurer que tout le monde a les infos.
Monsieur Bonnardel, là, dans l'histoire de la sécurité publique au Québec, là, l'histoire récente, est-ce qu'on a déjà combattu des feux qui peuvent autant menacer une ville d'importance au Québec, une ville de la taille de cette île?
Monsieur Quentin, c'est assurément la première fois que l'on évacue autant de gens au Québec pour des feux de forêt. Pour vous donner une statistique, là, présentement, jusqu'à aujourd'hui, on a combattu à peu près 325 incendies au Québec qui ont brûlé 11 000 hectares de forêt. À pareille date, là, dans les 10 dernières années, c'était à peu près 194 incendies pour 193 hectares touchés. Alors, vous pouvez mesurer jusqu'à quel point on a défoncé complètement la moyenne des 10 dernières années versus les hectares brûlés. Alors, on va se le dire, c'est important. C'est important, sinon majeur, en termes de feu présentement, aussitôt dans une saison.
Monsieur Bonnardel, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Bonne journée. François Bonnardel est ministre de la Sécurité publique. Alors, vous l'avez entendu de sa bouche, là, la situation est quand même inquiétante. Il y a beaucoup de feux qui sont hors de contrôle. Et pour lutter contre le feu, eh ben, il y a une société au Québec, ça s'appelle la Société de protection des forêts contre le feu. Et j'accueille maintenant sa porte-parole, Karine Pelletier. Madame Pelletier, bonjour.
Bonjour, M. Quentin.
Madame Pelletier, comment ça se passe dans le moment pour vos équipes?
Bien, je dois dire que le moral des troupes est bon. C'est sûr qu'on a 200 pompiers forestiers qui sont sur le terrain un peu partout au Québec, 200 combattants auxiliaires également, donc ça fait plus ou moins 400 personnes un peu partout. On a des avions citernes, de l'arrosage héliporté, des lignes d'arrêt mécanisées avec de la machinerie lourde, donc tout le monde travaille à pied d'œuvre, ça va bien.
Est-ce qu'il y a assez de gens pour lutter contre les feux?
C'est sûr que la capacité opérationnelle de la SOPFEU est dépassée, on se le cachera pas. Normalement, on est en mesure, on a les ressources matérielles et humaines pour combattre une trentaine de feux de forêt en même temps. Là, on est à 116 précisément actuellement. C'est sûr qu'on doit prioriser. Donc, comme M. Bonnardel disait tantôt, nos priorités d'intervention, ben, c'est les vies humaines, les communautés, puis les infrastructures stratégiques. Bon, ensuite, la forêt.
Et ça, les décisions sont prises comment? Est-ce qu'il y a un genre de comité central où siège le gouvernement, votre organisme? Comment ça se passe concrètement?
En fait, le Québec est divisé en trois directions régionales et il y a un siège social avec le Centre provincial de lutte, qui est comme le cœur un peu de l'organisation, qui est en contact constant avec, évidemment, les trois directions, les centres régionaux de lutte. Puis tout ça se passe au cœur, au CPL, qu'on appelle ici à Québec.
Et c'est de là que vous dirigez les efforts?
Exact.
OK. Comment on fait pour lutter contre un feu de forêt? Là, le ministre nous dit qu'il y a 21 feux contre lesquels on lutte activement. Concrètement, là, comment ça se passe? Est-ce que c'est uniquement avec des avions, citernes et puis on arrose ou il y a d'autres mesures qui sont prises?
Il y a d'autres mesures. Les avions citernes sont là pour l'attaque initiale, comme on dit, comme pour essayer de contenir le plus possible l'incendie, l'empêcher de grandir trop rapidement. Puis ensuite, les équipes au sol, ben, c'est des pompiers forestiers qui vont faire de l'arrosage, qui vont travailler le sol, qui vont couper des arbres, qui vont faire des lignes d'arrêt mécanisées, un peu comme il parlait des systèmes de tranchées. Mm-hmm.
C'est quoi une ligne d'arrêt mécanisée? C'est comme une tranchée?
C'est comme une tranchée, mais effectuée avec de la machinerie lourde. Donc, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Ça a des effets, c'est très, très, très efficace. Donc, si on manque, par exemple, d'avions citernes pour couvrir tous nos avions, ben ces méthodes-là vont très, très bien compenser, si on veut.
Donc, on creuse une grosse tranchée, là, et puis quand le feu arrive, là, ben le feu ne pourra pas progresser. C'est un peu ça l'idée.
C'est ça. Et on coupe le combustible, donc il manque d'énergie, puis il s'arrête là si tout fonctionne comme prévu.
Est-ce que c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, creuser des tranchées devant, par exemple, les installations d'Hydro-Québec ou dans les kilomètres là, qui sont juste avant cette île?
Oui, cette île, effectivement, il y a du travail mécanisé qui se fait. Dans le secteur de Chappé également, il y a une très grosse tranchée qui se creuse là, dans le coin de Chappé et pas loin de Chiougamau également. Là.
Bon, et vos gens vont travailler des heures interminables. Vous dites que quoi, il y a 200 personnes à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre un peu de repos? Parce que tout à coup, ça devient lourd là, et on devine qu'on en a pour des jours.
Oui, je disais 200 pompiers, mais il y a également 200 combattants auxiliaires, donc ce qui fait 400.
400 personnes.
400 pompiers, si on veut, ouais. Ben oui, c'est sûr, il y a des dons maximales de jours pour la santé et sécurité,
ben
évidemment.
Oui.
Là, ils doivent se reposer. Là. On n'est pas, on torture pas nos employés.
Non.
Mais évidemment, c'est des longues heures, beaucoup de journées en ligne. Évidemment, ils doivent se reposer. Puis il y a un cycle qui se fait là, pour s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un au travail puis qu'il y ait toujours des gens qui puissent se reposer également.
Est-ce que vous allez avoir du renfort?
On a placé des demandes à l'international parce que, comme on sait, la situation au pays, au Canada, elle est déjà optimale dans le sens où chaque province a déjà besoin de ressources. Donc, on ne peut pas emprunter ni prêter aux autres provinces qui sont, pour certaines, dans un état critique. Hein, si on pense à l'Alberta, par exemple. Donc, on a placé des demandes à l'international. On attend de savoir, là, peut-être d'ici deux semaines, on pourrait recevoir des équipes de pompiers pour nous aider.
Karine Pelletier, vous êtes porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Alors, vous l'avez entendu de la part du ministre Bonnardel, de la part de Mme Pelletier. Là, il y a un très, très, très gros défi au Québec pour essayer de contrôler ces feux-là. Donc, les feux qui approchent de la ville de Sept-Îles. Donc, des gens sont évacués, mais également des installations névralgiques d'Hydro-Québec. Alors là, il y a beaucoup de travail pour faire en sorte qu'on puisse, si le feu s'approchait trop, ben qu'on puisse le stopper, notamment avec les tranchées qu'évoquait Mme Pelletier. Il y a une histoire assez macabre au Mexique. Les autorités ont découvert 45 sacs contenant des restes humains. Ils ont trouvé ça dans un ravin. Et pourquoi ils ont trouvé? C'est qu'ils faisaient des recherches parce que des gens qui sont disparus, 8 personnes d'âgées d'à peu près une trentaine d'années, qui sont disparus depuis le 20 mai. Et ces personnes-là travaillaient tous dans un centre d'appel qui est situé dans la zone où les sacs contenant des restes humains ont été trouvés. Donc vraiment une situation absolument cauchemardesque. J'en parle avec le journaliste Frédéric Saliba, correspondant de plusieurs médias français au Mexique, dont L'Express. Frédéric, bonjour.
Bonjour Philippe.
Frédéric, racontez-nous les événements par le début. Là. Au début, quoi, le 20 mai, il y a des gens qui disparaissent et c'est comme ça que l'histoire s'amorce.
Oui, alors le samedi 20 mai est annoncée la disparition de 7 personnes, 2 femmes, 5 hommes, vous l'avez dit, trentenaires, qui travaillent pour un call center donc de la banlieue de Guadalajara. Guadalajara, c'est la deuxième ville la plus peuplée du Mexique. C'est dans l'état de Jalisco, à l'ouest du pays. C'est une ville high-tech, si on peut dire. Donc, il y a beaucoup de call centers. Et c'est donc, ces 7 salariés disparaissent. Tout le monde les recherche. Et en fait, l'enquête mène jusqu'au call center et on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas un vrai call center. C'est un call center qui est en fait contrôlé par le crime organisé et spécialement par le cartel, le fameux cartel Jalisco Nouvelle Génération. Un cartel ultra-violent qui s'est diversifié et notamment dans l'arnaque de touristes américains du troisième âge en leur vendant de faux séjours touristiques à Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, c'est une grande station balnéaire de la côte du Jalisco qui est très connue des Américains mais aussi des Canadiens. Et donc, il y a une arnaque qui est faite par rapport à ces touristes américains. Et donc, Les sept salariés ont disparu, tout le monde les cherche, et au cours de ces recherches, mercredi, on tombe sur, vous l'avez dit, 45 sacs avec des corps à l'intérieur, des corps découpés, une horreur, mais dans un pays où les disparitions sont quand même un des principaux fléaux du Mexique.
Bon, alors, tout ça, ces employés-là travaillaient dans un centre d'appel, et là, si je comprends bien, là, ils procédaient à des appels aux États-Unis pour essayer de vendre à des gens du un peu plus vieux, parfois un peu moins informés, des voyages dans les lieux de villégiature, mais tout ça c'était du vent là. Il y avait pas, si les gens dépensaient, il y en avait pas de voyage à la clé là.
Oui, alors ce que l'enquête a révélé, c'est qu'en fait, ce call center a ouvert en novembre 2022. Il n'a pas de licence, il n'est pas homologué, c'est en fait un call center pirate. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les cartels de la drogue ne vendent pas que de la drogue, ils se diversifient. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils se sont diversifiés dans le secteur des call centers pour arnaquer des touristes qui recherchent des vacances de rêve et qui, au final, se font avoir et perdre leurs économies volées par un cartel de la drogue.
Maintenant, est-ce qu'il y a des thèses qui circulent là, au Mexique pour expliquer pourquoi ces gens-là, pourquoi ils sont disparus, puis deuxièmement, si ce sont leurs restes qui ont été trouvés dans des sacs, pourquoi une telle violence à leur endroit?
Alors, pour l'instant, on ne sait pas si ces sept disparus correspondent donc aux sacs trouvés et aux corps. Il va falloir des analyses. On va le voir on le saura sans doute dans les prochains jours. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'au Mexique, il y a une guerre des cartels de la drogue qui se font une concurrence acharnée. On parle quand même de près de 400 000 morts depuis 2006. Et donc, il y a aussi énormément de disparus, on parle de 100 000 disparus à peu près, et figurez-vous que l'État de Jalisco est un des États où il y a le plus de disparus. Donc, on peut même expliquer un petit peu le phénomène et surtout le tollé que cette affaire est en train de réveiller au Mexique, parce que la lutte contre les cartels de la drogue, et notamment du président Andrés Manuel López Obrador, se révèle être un échec.
Et comment la population mexicaine compose avec cette situation-là? Ils voient là, leur pays qui est sous l'emprise dans bien des régions de criminels. Ils voient la réputation de leur pays qui en souffre, bien sûr, parce que là, ça devient plus inquiétant d'aller au Mexique. Comment ils composent avec ça?
Alors c'est très compliqué au Mexique. Et d'ailleurs, on vit un peu dans une vie un peu normale, en fait. Les touristes continue d'affluer dans ce pays. C'est quand même un pays superbe, avec des stations balnéaires absolument magnifiques. Et donc, il y a énormément de touristes, notamment canadiens, qui passent l'hiver au Mexique et qui continuent de venir. Et en même temps, parallèlement, il y a des scènes d'horreur avec des cadavres qu'on retrouve dans des sacs poubelles, mais aussi des narcotrafiquants qu'on retrouve, par exemple, pendus à des ponts. Et donc, en effet, on passe du paradis à l'enfer. Et les Mexicains sont obligés de composer avec ça. Et donc, au Mexique, on fait très attention. On fait très attention à ses enfants. On ne conduit pas de nuit, par exemple. Et on échange toujours avec des proches en leur disant « Je vais dans cette direction, je vais là, je vais ici. » Et on s'envoie des photos de plaques de taxi, par exemple. Parce que les cartels de la drogue est un spectre mafieux qui a absolument gangréné toutes les structures de l'État mexicain. Et donc, ça devient très, très compliqué, par exemple, de demander l'aide de la police parce qu'il y a beaucoup de flics pourris et donc ripoux. Et donc, c'est le gros problème du Mexique, c'est que c'est un pays qui est en même temps merveilleux et qui, en même temps, peut se transformer en enfer à cause du crime organisé.
Est-ce que le président du Mexique a véritablement tenté de faire en sorte que la situation s'améliore dans la lutte à la criminalité ou s'il a, au fond, rendu les armes?
Alors écoutez, c'est compliqué parce qu'en fait, il y en a eu trois des présidents. Il y a eu Felipe Calderón qui a déclaré guerre contre les cartels de la drogue en 2006, puis il y a eu Enrique Peña Nieto en 2012 qui est arrivé et qui a poursuivi cette militarisation du pays qui a mis le feu aux poudres par rapport à la violence. Et puis il y a Andrés Manuel López Obrador, président de gauche, élu donc en 2018 et qui arrive en disant je vais tout changer, je vais arrêter cette guerre contre les narcos et je vais essayer de m'occuper des causes qui sont évidemment la pauvreté. Vous savez qu'au Mexique, une personne sur deux est pauvre et donc et qu'il y a une impunité absolument totale. 98% des délits ne sont pas jugés et donc c'est cette impunité qui explique aussi ce crime organisé. López Obrador arrive pour tout changer et en fait ce qu'on s'aperçoit, c'est que son changement se révèle être un échec dans le sens où il a levé le pied sur les arrestations de grands narcos, il a créé une forme de brèche dans laquelle se sont engouffrés les cartels de la drogue et aujourd'hui la situation paraît ingérable.
C'est très inquiétant pour ce pays-là et on se demande un petit peu comment ils vont réussir à s'en sortir. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui sont parfois évoquées où les gens disent, écoutez, c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire?
Alors, c'est très compliqué parce que d'un côté, vous avez donc un président de la République qui dit, moi, j'ai hérité d'une situation catastrophique, je fais ce que je peux et en même temps... Andrés Manuel López Obrador continue de déployer l'armée. Il a d'ailleurs déployé beaucoup plus de militaires que ses prédécesseurs. À l'époque d'Enrique Peña Nieto, il y avait 50 000 militaires sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a 80 000 qui s'occupent de la sécurité publique. Donc, il y a une militarisation en fait de ce conflit. Et cette militarisation du conflit, comme je vous disais, met le feu aux poudres, c'est-à-dire attise les problèmes, alors qu'en fait, le problème crucial du Mexique, c'est le manque d'opportunités, les inégalités absolument criantes qu'il peut y avoir entre des richesses énormes comme celle connue de Carlos Slim, qui a été l'homme le plus riche du monde à un moment donné, et en même temps une pauvreté qui touche quand même 47% de la population et qui donc pousse énormément de jeunes, parce qu'il y a un problème, c'est que c'est les jeunes qui se tuent et c'est les jeunes qui rentrent dans les cartels. Et donc vous avez aujourd'hui une génération de jeunes qui est en train de se constituer, qui est une génération de criminels et qui risque de poser des problèmes très importants dans l'avenir. Honnêtement, moi, j'ai pas de boule de cristal. Les gens espèrent que des réformes pourraient changer les choses. D'autres en doutent énormément.
Frédéric Saliba, vous êtes correspondant de plusieurs médias français au Mexique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, Philippe.
Bonne journée. Alors, je le rappelle, depuis une quinzaine d'années, il y a eu près de 400 000 morts et 100 000 disparus reliés au cartel de la drogue. Et là, avec tout ce qui se produit, avec cette histoire dont on parle, ces restes humains qui ont été découverts, ces personnes qui ont disparu dans un centre d'appel, le gouvernement du Canada a émis un conseil à tous ses ressortissants en disant « Soyez prudents quand vous allez au Mexique. Il y a toujours des dangers là-bas. Il faut être sur ses gardes. » Alors, c'est une histoire qui est vraiment... Qui est morbide puis qui est inquiétante également. Très belle chanson, Maud Goyer. Tu l'as choisie en introduction à ta chronique parce que tu vas nous parler des enfants. Et on a beaucoup parlé cette semaine du grand dossier qui a été signé le week-end dernier par la journaliste Marie-Ève Fournier dans la presse sur l'état de nos enfants au Québec. Le constat était alarmant. On y apprenait que les taux d'anxiété, de problèmes d'apprentissage, de comportement étaient très, très élevés chez nos jeunes. Et toi, tu as décidé de demander à beaucoup de gens, des parents, des éducateurs, des éducatrices, des profs, hey, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre nos enfants heureux?
Exactement. J'ai fait des entrevues au téléphone, mais j'ai aussi lancé la question sur mes réseaux sociaux. Ça fait longtemps, Philippe, comme journaliste, que je m'intéresse aux enjeux qui touchent la famille. Donc, j'ai beaucoup de parents qui me suivent, d'enfants de 12 ans et moins, disons. Puis, il y a beaucoup aussi d'éducatrices, de membres du personnel scolaire, membres de la direction qui m'ont répondu. En tout, une centaine de réponses. par Facebook et Instagram. Donc, quand même, un petit sondage. Évidemment, c'est pas scientifique, c'est pas une étude scientifique, puis il n'y a pas de recette magique. On sait que chaque enfant est différent. On sait que pour un même parcours dans une même famille, hein, selon le tempérament des enfants, ça va être différent.
Chaque famille a ses réalités aussi.
Effectivement. Par contre, il y a quand même des choses qui se sont répétées souvent, qui sont ressorties. Puis là, je me suis dit, je vais faire une petite compilation, puis je vais venir présenter ça dans ma chronique, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Dans le top 10, il y a par exemple le temps de qualité passé en famille. Il y en a des fois qui disent, est-ce que c'est la quantité ou la qualité? Moi, je pense que ça prend un peu des deux quand on est capable. Mais il ne faut pas se culpabiliser comme parents. On travaille beaucoup depuis la pandémie, mais on travaille plus. Il y a une étude qui dit qu'on travaille 3,3 heures de plus en moyenne par semaine. Une étude qui va sortir cet automne par l'Université Laval. Donc, on travaille.
Depuis la pandémie?
Oui, on travaille plus, en fait.
Comment
ça
s'explique?
Bien, on a coupé notre temps de déplacement, puis après, à la place, on se met devant notre ordinateur, puis on a la fabuleuse laisse électronique qui est le téléphone et le laptop.
La laisse électronique,
exactement.
C'est intéressant comme expression.
Donc, on travaille plus. Donc, passer du temps de qualité, hein, le temps, c'est tellement important. C'est notre ressource la plus importante qu'on a. Donc, passer du temps en parent, enfant, solo ou en famille, le mettre à l'agenda. Et s'y tenir, honorer notre parole, c'est tellement important envers nos enfants. Deuxième chose qui est revenue beaucoup, c'est le souper en famille sans écran, le plus souvent possible. Évidemment, c'est pas toujours possible, mais quand on est capable de manger ensemble, toutes les études, Philippe, démontrent à quel point c'est un facteur de protection. Puis même des affaires auxquelles on ne pense pas, des choses vraiment surprenantes. Tu sais, ça protège des troubles alimentaires, si on peut le comprendre, d'une bonne alimentation, mais ça aide aussi à la cohésion familiale, à une meilleure communication. C'est bon pour la réussite scolaire, puis c'est même associé à moins de suicides chez les adolescents. Donc, souper en famille, ça fait beaucoup de choses pour l'estime de l'enfant. Évidemment, qui dit souper en famille, dit aussi de gérer des chicanes. Un petit truc que j'avais appris dans un atelier que j'avais fait avec une éducatrice, Isabelle Filiosa, qui est une sommité dans le monde de la petite enfance. On n'assoit pas les enfants un en face de l'autre si on est capable. C'est mieux qu'ils soient côte à côte parce que ça aide à l'ambiance familiale. Tu sais, je donne des petits trucs en passant comme ça, si vous avez à gérer des chicanes, des conflits. Dans le top 3, c'est des choses qui sont ressorties, c'est comment élever des enfants heureux, les laisser s'ennuyer. Ça aussi, ça a beaucoup de vertus, le jeu libre, le fameux jeu libre sans contrainte, sans temps arrêté, jouer dehors. Donc ça c'est souvent du jeu libre. Et ça, il y a des vertus reconnues par les études encore là pour la créativité, l'indépendance, l'autonomie, le développement de l'imagination, la connaissance de soi. Il y en
a plein. On n'a pas besoin de toujours être dans un contexte de performance.
Exactement, pas besoin de surstimuler. Et dans le même sens, une autre chose qui est vraiment beaucoup ressortie, c'est de limiter les écrans au maximum. Encore là, moi, je ne suis pas faut pas démoniser les écrans. Je pense que ça fait partie de notre vie. Je pense qu'il faut, par exemple, comme parent, donner l'exemple. Donc, lâcher son écran quand ton enfant tourne autour, même les ados, là, quand ils arrivent et qu'ils nous tournent un peu autour, là, c'est parce qu'ils veulent nous parler. Bien, on lâche notre écran puis on se met disponible. Juste ça, c'est prendre conscience aussi du temps que nous-mêmes, on passe sur nos écrans. Ensuite, mettre un encadrement, une structure.
Si tu permets, c'est intéressant dis, c'est-à-dire percevoir le moment où ton ado veut te parler. Parce qu'on sait, les ados commencent, parfois, ils veulent te parler. Oui. Et parfois, tu as beau essayer de leur parler, ça
c'est
fonctionne
pas.
Il faut que tu sois capable de déceler le bon moment. Et là, le conseil me semble tout à fait approprié. C'est sûr que si l'ado il a le goût de jaser cette journée-là, puis t'es vissé à ton téléphone cellulaire,
tu le verras pas,
puis lui, il va revirer de bord. Là.
C'est pour ça qu'un bon moment pour son ado, c'est en voiture. Moi, je donne beaucoup de lift. Des fois, je me plains parce que je suis toujours en train de faire des transports à mes deux ados. Mais dans le fond, ces moments-là, c'est des moments de bulle où on est juste les deux, puis on peut entamer des conversations vraiment intéressantes. C'est un bon moment privilégié parce que y a personne souvent sur son écran. Mettre un encadrement, c'est revenu beaucoup aussi, hein, selon nos valeurs, évidemment, selon ce qui est important pour nous, mais une structure, des limites claires, puis on laisse notre enfant expérimenter dans ces limites-là. Également, ce qui a beaucoup ressorti, puis ça semble banal, mais écouter sans jugement. T'sais, amener notre enfant vers des solutions, poser des questions au lieu de le juger ou le sermonner ou le brusquer dans ses réponses. Des fois, on est pressé, puis on coupe la parole, puis il n'a pas fini sa pensée. Donc, l'écouter sans jugement. En position numéro 7, miser sur le plaisir. Donc, tu parlais de performance. Mettre la performance de côté puis avoir du fun en famille. C'est quand la dernière fois qu'on a ri en famille? C'est important. Puis les enfants vont faire du mimétisme. Hein? Ils vont faire comme nous. S'ils voient qu'on est capable d'être oui, vulnérable, mais d'avoir du fun aussi, de donner de la place à nos loisirs, nos hobbies, à nos passions, ils risquent de faire la même chose.
Et moi, je me souviens d'une époque là, où quand on allait en vacances, on apportait des jeux de société parce qu'on n'en fait plus là, pour la plupart d'entre nous, des jeux de société. On n'a plus le temps. On est, comme tu dis, tout le temps sur nos écrans. puis retrouver un jeu de société traditionnel. Là. Je me souviens quand Paco, on jouait à clous. C'était le fun,
c'est
famille.
C'est très le fun. Là, c'est très Monopoly.
Chacun avait sa façon de trouver qui était le coupable. C'était assez amusant.
Oui, c'est très le fun. Puis quand ils vieillissent, on peut avoir des jeux plus sophistiqués. Ouais. Là, on peut jouer au Scrabble, on peut jouer au Colon de Catan. Ça, c'est très populaire, un jeu allemand qui est un gros hit chez nous. Le respect aussi, évidemment, respecter son enfant dans ses humeurs, dans ses attentes et dans ses limites aussi. Le jeu, tu viens d'en parler, c'est en position numéro 9. Mmh. Tu vois, super important. Et finalement, on en a parlé mercredi, Philippe, l'éloge de l'inconfort, ne pas surprotéger son enfant, le laisser vivre des échecs. Parce que si on nivelle le terrain toujours en avant de notre enfant, là, ben, il apprend pas à gérer des frustrations, puis à lui-même les gérer, à l'autoréguler. Hein, c'est important. Donc, l'éloge de l'inconfort, ça s'est revenu vraiment beaucoup.
Ben, c'est très intéressant. Puis sur notre messagerie texte, il y a quelqu'un qui nous écrit, puis je trouve ça intéressant. Bon, toute une liste de suggestions, puis ça recoupe beaucoup de choses que tu viens d'énumérer, Maud. Mais quelqu'un nous dit, ben, les prendre, les enfants, en flagrant délit de compétence.
Oui.
Je trouve ça intéressant. Autrement dit, quand faites un bon coup, là.
Il faut le souligner, voilà. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant se sent valorisé. Puis en conclusion, Philippe, là, j'ai souvent parlé de la fameuse étude sur le bonheur, la plus grande étude scientifique jamais faite sur le bonheur. Les conclusions sont sorties au début de l'année. Ça a été fait par les chercheurs de Harvard. Puis la grande chose à faire, c'est les relations avec les autres. C'est ça, le secret du bonheur. Et ça vient, entre autres, de nos relations avec nos enfants.
Merci beaucoup, Maude.
Plaisir.
Tu restes là, hein?
Oui.
Tu participes à toute l'émission.
Essayer, oui. Ben,
voilà.
Et quand je roule à vélo, la tête dans les étoiles et dans le vide. Le vent est doux, j'hallucine. Je roule à vélo, la nuit est claire, le chemin désert. Je suis invincible.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Eh bien, c'est un gros week-end de vélo qui s'annonce à Montréal avec la présentation du Tour la nuit, c'est ce soir, et du Tour de l'île dimanche. Et pour souligner l'occasion, eh bien, impossible de trouver une chanson plus appropriée que celle de Daniel Bélanger, intouchable et immortel. J'accueille avec plaisir mon camarade MC Gilles. Salut MC.
Salut mon cher Philippe. Oui, toi, le Tour de l'île, on vit deux choses différentes. Toi, tu cours partout, t'es heureux.
Ouais.
Moi, j'ai toujours resté pris 3 heures. Là-dedans, plus moyen de sortir nulle part.
Parle-en pas là, tu vas briser le party.
Mais
là.
Je te dis juste, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on s'aime, Philippe. T'sais, on est toujours les deux côtés de
la
même
médaille. Le yin et le yang.
Exactement.
Hein, nous formons le yin et le yang.
Exactement.
Mais tu sais, je veux juste dire un mot sur cette chanson-là. Je l'ai toujours trouvée tellement belle. Je trouve que c'est. Bon, d'abord, c'est poétique. La mélodie est exceptionnelle. Mais j'écoute ça, MC, et je ressens un vent de liberté. Mm-hmm. Tu sais, je trouve que c'est une chanson de liberté, ce texte-là de Daniel Bélanger.
Daniel Bélanger, c'est un petit génie. Il y a plusieurs choses à dire, là, mais écoute, le seul qui fait des chansons, parfois sans refrain, parfois juste des couplets, qui commence parfois la chanson avec des textes sans aucun préambule musical, c'est vraiment un petit génie de la musique.
Oui, tout à fait. Alors, dans quelques instants, je vais m'entretenir avec Jean-François Rault, qui est PDG de Vélo Québec. Vélo Québec est bien sûr l'organisateur de ce week-end hors de l'ordinaire. Et puis, on va parler également à notre amie Catherine Beauchamp. MC Catherine est toujours à Zlin, en Tchéquie, où elle assiste à un festival de films.
Je pense qu'elle est allée, moi, dire, parce que Zlin, je ne connaissais pas. Et puis là, c'est sa dernière chronique tout à l'heure là-dessus, parce qu'elle nous revient lundi,
bon.
En chair et en os, tout comme Patrick, d'ailleurs.
Tout comme Patrick, d'ailleurs, qui rentrera de vacances. Et puis Maud Goyer est également avec nous. Salut, Maud.
Salut, Philippe.
Alors, Maud, on a beaucoup parlé d'éducation des enfants cette semaine. Je pense que ça a été un thème qu'on a abordé à tous les jours, ou presque, là, au Québec maintenant. Et tout ça, ben, ça t'a incité à poser une question à plusieurs personnes. Quelle est cette question?
Comment élever des enfants heureux? Et j'ai reçu une centaine de réponses et je vous les résume tout à l'heure. J'ai fait une compilation puis j'ai 10, un top 10 pour vous.
Bon, et ce qu'on va faire en même temps, là, on va demander aux gens sur la messagerie texte 98985, écrivez-nous, donnez-nous votre réponse à cette question-là. Maud, tu répètes la question.
Comment élever des enfants heureux? C'est quoi vos trucs? Qu'est-ce que vous faites à la maison?
C'est très, très bon. Puis je suis convaincu qu'on va avoir des réponses super intéressantes. Alors, on s'en parle dans quoi? Une quinzaine de minutes à peu près. Bien sûr, ce qui retient l'attention dans l'actualité aujourd'hui, ce sont les feux de forêt qui virent la catastrophe en Nouvelle-Écosse et au Québec. Des milliers de personnes qui sont évacuées, des gens qui ont déjà tout perdu. Je lisais dans le Globe and Mail, là, qu'aujourd'hui, il y a environ 200 résidents d'un quartier en banlieue de Halifax qui a été ravagé par le feu. Eh bien, on les invite à monter à bord d'un autobus et on va les conduire en zone sinistrée afin de constater les dégâts. Alors, imagine, là, aujourd'hui, là, tu montes dans un autobus, l'autobus part pour ton secteur de la ville où tu restes et là, tu sais déjà, là, tu te doutes de ce que tu vas voir. T'en as vu un peu des images à la télé, mais au fond, tu t'en vas voir ta maison qui a passé au feu. J'imagine la détresse, ça doit être absolument épouvantable. Des souvenirs d'une vie qui sont partis en fumée. Mais là, le problème le plus important, c'est qu'on voit pas la fin de tout ça. En Nouvelle-Écosse, il y a toujours 4 feux qui sont hors de contrôle. Et au Québec, ben, ça s'en vient de plus en plus inquiétant à chaque heure qui passe. L'état d'urgence a été déclaré à 7 îles. Des quartiers sont évacués. État d'urgence aussi dans la communauté Innue de Manitoutenam. Et la superficie des feux là, qui menace la région, ça progresse à la vitesse grand V. Le Radio-Canada expliquait que c'est passé de 6 km carrés là, dans la région de Sept-Îles, de 6 km carrés il y a 5 jours, à 380 km carrés à l'heure actuelle. Alors, c'est vraiment très, très inquiétant. Et la situation résonne aux quatre coins du monde. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'étais sur mon téléphone, je vais sur mon application du journal du quotidien français Le Monde. Quelle était la manchette du monde? C'était les feux de forêt au Canada. Alors, on voit que ça interpelle tout le monde. On le sait, l'an dernier, la France, d'ailleurs, a vécu ça, des feux de forêt absolument catastrophiques qui ont duré plusieurs jours. C'était très, très dur dans le centre du pays. Alors, c'est un phénomène avec les changements climatiques qui, malheureusement, il va falloir... c'est triste à dire, mais il va falloir s'habituer un peu à vivre avec ça et trouver des moyens de contrer parce que c'est comme plus évitable.
Et tu parles du drame des gens en Nouvelle-Écosse qui vont revoir leur maison détruite ou non. Ils savent pas ce qu'ils vont retrouver. Et même drame sur la Côte-Nord en ce moment, des gens de Sept-Îles qui doivent quitter, évacuer la ville. Et là, même chose, mais à l'envers, c'est que tu prends le minimum, le plus que tu peux ramasser, en sachant pas quand tu vas revenir, ça va avoir l'air de
quoi. Et dans quel état, voilà, exactement. Donc, c'est vraiment dramatique ce qui se passe. Et dans la deuxième heure de l'émission, on va faire le tour complet de la situation. Parmi nos invités, il y aura le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel. On ira aussi au Mexique, où un terrible fait divers alimente l'actualité. Les autorités mexicaines qui ont découvert 45 sacs dans lesquels il y avait des restes humains. Et ça, ils ont trouvé ça dans un ravin, là, dans un état, l'état de Jalisco, dans l'ouest du pays. Et comment ils ont trouvé ces sacs-là, les enquêteurs? Bien, ils sont à la recherche de 8 trentenaires qui sont portés disparus depuis le 20 mai. Tous ces gens-là travaillaient dans un même centre d'appel et le centre d'appel est situé dans la zone où les sacs ont été trouvés. Alors, c'est une histoire franchement inquiétante et on fera le point là-dessus aussi. Mais bon, c'est vendredi et vendredi, qui dit vendredi à cette émission, on dit du fun, du rire et du vin aussi, MC.
Oui, puis là, je sais qu'en ce moment, il y a une veille d'orage violent. Donc, si vous êtes à l'extérieur, allez vous protéger. Là, c'est comme hier soir, tu sais, des vents assez violents.
Oui.
Assez pour renverser des poubelles, pour faire envoler vos choses qui traînent à l'extérieur. Mais le positif, c'est que vers 17h30, 18h, ben là, on va pouvoir ressortir à l'extérieur. Il devrait faire beau. Et c'est là que vous montez le son, parce qu'aujourd'hui, c'est un vendredi groovy hommage. Donc, des chansons qui ont été composées en hommage. Par exemple, la chanson de France Gall, Ella Ella, qui est en hommage à Ella Fitzgerald. Donc, toutes des chansons comme ça. Et puis, un petit quiz musical juste avant, mais je veux pas vous en dire plus pour pas que vous trichiez.
Bon, j'ai très hâte au quiz musical. MC nous a dit qu'il était un peu facile aujourd'hui. C'est vrai?
Je vous ai mis ça, oui, je vous ai mis la barre. Et puis là, Philippe, tu m'as dit...
C'est à cause qu'on est là, puis Catherine et Patrick sont pas là, c'est ça?
Non, pas du tout, mais pour tout dire à l'auditoire, tu sais, Philippe, il vous essaie de m'aider, des gens que je connais, tout ça. Je pense qu'il y a pas personne aujourd'hui que je fais jouer que tu ne connais pas.
OK.
C'est pas de la pression que je te mets, là, vraiment.
Un peu quand même.
Non, pas du tout.
Est-ce que moi, je les connais, ça veut dire?
Ben, par la force des choses.
Oui.
Maud, on fera équipe.
Oui, c'est ça, c'est bon, ça.
On fera équipe. Ça va nous donner une chance, OK?
Comme à la lutte.
Oui, c'est sûr, comme à la lutte.
Des tag teams.
Et puis, demain, c'est le début de la finale de la Coupe Stanley. Alors, tous les membres de l'équipe du Québec maintenant ont fait leurs prédictions et je vais vous les donner tantôt, les prédictions, et on verra dans quoi, une semaine, 10 jours, 15 jours au maximum, qui aura eu raison. Mais pour l'instant, on parle vélo parce que c'est le festival Go Vélo Montréal, je le disais en ouverture d'émission. Donc ce soir, c'est le Tour la nuit. Jean-François Rault est PDG de Vélo Québec, organisateur de l'événement. Jean-François, bonjour.
Salut Philippe, merci de l'invitation.
Ouais, ça me fait plaisir Jean-François. Dites-moi, d'abord la météo, là, vous devez être quand même rassuré. C'est pas très beau là, à l'heure actuelle. On annonce des orages, mais théoriquement, à 20h ce soir, quand sera donné le départ du Tour la nuit, le pire devrait être derrière nous.
Ben effectivement, j'étais content aussi d'entendre MC qui me parlait même de 18h. La dernière fois que j'ai regardé la météo à 19h, C'est terminé pour les alertes d'orage. Donc, on est content. Nous, c'est un retour post-pandémie. On a fait deux éditions pendant la pandémie qui étaient des éditions plus petites. Un peu, là, on revient, tu sais, avec notre site de départ arrivé. On attend 19 000 personnes ce soir. Donc, le départ, c'est au Parc Maisonneuve. Puis, on va traverser les quartiers de Rosemont, Saint-Léonard, Montréal-Nord. Puis, on revient par Rosemont, là. Puis le tour la nuit, c'est toujours un événement magnifique parce qu'il y a de la lumière, parce que les enfants, parce que la musique. Donc, on est très, très contents.
Bon, c'est un parcours de 24 kilomètres. Les gens font ça en combien de temps, à peu près, Jean-François?
Ah ben, en fait, ça, ils vont à leur rythme. Là. C'est certainement pas une course. Là. Les premiers vont faire ça en une heure et demie, mais la majorité vont faire ça en deux heures. Là. C'est un parcours qui se veut ludique, qui se veut facile. Chacun y va à son rythme. C'est ça qui est le fun là, avec le tour la nuit puis le tour de l'île. C'est pas une course, c'est vraiment pour célébrer le vélo, pour que les gens puissent se sentir en sécurité, découvrir la ville aussi d'un autre point de vue. C'est assez rare qu'on ait dans le milieu de la rue, qu'on peut avoir une perspective là, tu sais, sur les immeubles. Souvent on est sur le trottoir, donc c'est vraiment quelque chose de facile puis extrêmement festif.
Bon, et là, vous attendez 19 000 participants. Il y en avait 18 000 l'an dernier. Mais 19 000, est-ce que ça serait un record?
Ben pour le tour la nuit, oui, en fait. Par contre, là, c'est pour le tour la nuit, c'est 24e édition. Le tour de l'île, dimanche, c'est 38e édition. Puis dans les années 80-90, il y avait 45 000, 50 000, 55 000. Donc, c'est pas des records absolus, mais pour le tour la nuit, oui, 19 000, c'est un record.
Bon, et beaucoup, beaucoup d'enfants dans tout ça.
Oui, ben en fait, les enfants adorent ça, justement, pour le côté ludique, puis coloré, illuminé. C'est vraiment magnifique à voir, là, beaucoup de familles, en fait, des enfants qui vont être parfois dans des remorques, souvent des enfants qui vont pédaler. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont faire une distance un peu plus longue. 24 kilomètres, c'est vraiment accessible là, quand on fait du vélo, mais pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont faire cette plus grande distance-là. Donc, ça vient, les participants vont ressentir souvent une fierté de s'être dépassés, même si c'est des petites distances. Donc, ça, c'est génial.
Bon. Et dimanche, c'est le grand tour de l'île. Comment ça s'articule?
Donc, le tour de l'île, c'est un événement plus classique. En fait, là, encore une fois, le départ, c'est dans le parc Maisonneuve, dans le quartier Rosemont. Puis on file vers l'ouest là, pour monter, pour traverser les quartiers de Parc Extension. Puis on sait qu'on va longer le boulevard de l'Acadie. Puis ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a tout une longue section sur le boulevard Gouin jusqu'à Rivière-des-Prairies. Puis ça, c'est le fun parce qu'on est au bord du fleuve. On n'a pas l'occasion souvent de circuler puis de voir le fleuve. Donc ça, c'est génial. Puis comme c'est un peu plus long, c'est 47 kilomètres, il y a deux haltes-relais. Où les gens, il va y avoir des jeux gonflables, des maquillages, puis aussi de la musique, puis des DJ. Fait que dans les deux cas, c'est vraiment un gros party.
Ouais, et ça s'annonce une journée formidable hein, pour faire le tour de l'île dimanche. Des températures plus fraîches, là, l'effet canicule sera terminé. Un maximum de 21 degrés, mais plein soleil, là, selon les prédictions, prévisions plutôt que prédictions à l'heure actuelle.
La météo est vraiment parfaite là pour dimanche, ça va être confortable, c'est encore possible de s'inscrire. Puis nous ce qu'on aime dans cette célébration là, c'est vraiment ça participe vraiment à créer une culture vélo. Moi, j'ai fait mon premier tour de l'île en 1996, c'était la première fois que je roulais 63 km, que je découvrais la ville, puis pour moi ça a été un moment marquant là de justement célébrer. Pour la première fois, un, rouler en ville, j'ai grandi sur la rive sud, puis deux, en fait, de me dépasser. Là. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec ces événements-là. Puis nos clients, les participants nous le disent, on leur demande, ils nous disent qu'ils font plus de vélo après avoir participé aux événements. Donc ça, c'est super.
Beaucoup de gens trouvent que ça va pas assez vite, l'adaptabilité de Montréal au vélo, mais quand même, il y a des efforts considérables qui ont été faits dans les dernières années. Et oui, ça pourrait aller encore plus rapidement, mais Montréal a tellement changé, Jean-François, à ce niveau-là.
Oui, il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'acceptabilité sociale du réaménagement de l'espace dans nos rues, dans les trois dernières années, on a fait beaucoup de progrès. Puis en fait, il y a beaucoup de gens qui pourraient utiliser le vélo. Au Québec, en général, là, c'est 36 % des Québécois qui habitent à moins de 5 km de leur travail. Ce qu'ils nous disent, c'est que la principale barrière pour la pratique du vélo, c'est l'absence d'infrastructures sécurisées. Donc, en fait, la ville de Montréal déploie de plus en plus d'infrastructures. Puis on le voit, Bixi a presque doublé ses chiffres d'une année sur l'autre. Fait que le vélo puis le Bixi, c'est vraiment une option de mobilité pour les Montréalais et ça fait vraiment partie de notre mix, en fait. Puis on a besoin de plus de solutions pour se déplacer. Puis le vélo, ça permet de déplacer plus de gens sur des plus petits espaces dans nos villes. Fait que ça, c'est super.
Non. Est-ce qu'il y a des gens qui font le tour de l'île en vélo électrique?
Ah oui, ben en fait, oui, les vélos électriques, il y en a de plus en plus. Nous, puis on va faire une étude cette année, mais nos derniers chiffres là, de 2020, pardon, c'était un vélo sur quatre qui était pour les adultes, qui était un vélo à assistance électrique. Puis on entend chez les détaillants qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ça, de plus en plus de gens qui souhaitent avoir un vélo à assistance électrique. Puis le vélo à assistance électrique, c'est un outil un peu magique, dans le sens que ça permet aux gens d'aller plus loin, de couvrir des plus grandes distances ou des gens avec des qui n'ont pas nécessairement la même force. Par exemple, quelqu'un qui est moins habitué de faire du vélo, qui peut faire du vélo avec une personne qui a un peu plus l'habitude. Donc ça, c'est vraiment super. Puis les études en Europe montrent que les bénéfices sur la santé sont équivalents.
C'est vrai? Oui, c'est ça, exactement. Là, vous m'étonnez. J'aurais pas cru.
Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les gens qui ont des vélos à assistance électrique font plus de vélos que les gens qui n'ont pas de vélo à assistance électrique. Donc, un trajet va avoir moins d'impact, mais comme lorsqu'on a un vélo à assistance électrique, on en fait plus, bien, au final, les bénéfices sont plus grands. Fait que je pense qu'on a intérêt, tu sais, à investir dans le déploiement dans l'adoption des vélos à assistance électrique. Puis il y a de plus en plus de villes qui le font. Sherbrooke, Chambly, l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent offre des petites subventions, mais des subventions pour aider les gens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Bon, il y a vraiment une petite révolution sur l'utilisation du vélo au Québec depuis quelques années. Et ça, c'est bon non seulement pour les gens qui aiment le vélo, mais c'est bon pour la santé publique aussi, parce que les gens sont plus en forme. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Jean-François Rault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent tour la nuit ce soir et un très beau tour de l'île dimanche.
Merci Philippe, bonne journée.
Bonne journée, c'était Jean-François Rault de Vélo Québec.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.